Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. En temps normal, Popopop est une émission certes rythmée, mais pondérée, joyeuse et bienveillante. Je dis bien en temps normal parce qu'aujourd'hui, le cap va être difficile à tenir avec l'énergumène à qui nous ouvrons les portes du studio. Sur certains réseaux sociaux, il sévit sous le pseudo de Grumpy Motherfucker, ce qui, je traduis pour les moins anglophones d'entre vous, signifie grincheux baiseur de mer ou fils de pute grincheux selon les nuances. C'est un écrivain qui publie depuis une petite trentaine d'années et dont le premier ouvrage était sobrement intitulé « Fuck ». Une petite trentaine d'années plus tard, donc, celui dont il vient nous parler aujourd'hui a pour titre « Vénère », signe que ce garçon s'est un peu calmé, qu'il est un peu moins rageux, ce qui, comme on va le voir, est tout relatif. Et en disant cela, je pèse mes mots, car je sens bien qu'aujourd'hui encore, bien qu'il soit en territoire ami, il suffirait d'un rien pour que jaillisse la lave du volcan faussement endormi auquel il n'est pas abusif de l'associer. Oui, c'est un écrivain hautement inflammable que nous recevons aujourd'hui, Laurent Chalumeau, le bien nommé et l'invité de Popopop.
France Inter.
Popopop.
Antoine Decaune.
Bonjour Laurent Chalumeau.
Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Charline.
Bonjour Laurent Chalumeau. Voilà. Bonjour Antoine Decaune.
Mais bonjour Charline Roux. Au menu également de Popopop, le groupe qui aime tracher les hits planétaires de la pop culture. Eh oui, Ramon Pipe, hein, et les excellents seront tout à l'heure en live dans l'émission. Voilà pour le menu. Laurent Chalumeau, je laisse à un autre auteur que vous mentionnez dans votre livre Vénère le soin de lancer cette émission.
Salut, c'est Philippe Jean, et vous écoutez quoi? Vous écoutez Pop Pop Pop.
Alors, Philippe Jean, que vous asticotez dans votre livre alors que vous êtes proche. Alors, question simple que se posent nos auditeurs et vos lecteurs, Laurent Chalumeau.
Mais pourquoi est-il aussi méchant?
Je ne suis pas méchant, je suis juste dessiné comme ça. Et je suis sûr que Charline saura identifier la source de cette réplique.
Jessica Rabbit.
Voilà, bien. Il n'y avait rien à gagner, c'est dommage parce que ça méritait.
Bien, alors Laurent Chalumeau, ici il existe une question qui est encore plus brûlante que vous. Brûlante, Chalumeau, humour. Bref, cette question c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture, Laurent?
Tout a été dit quand même sur ce sujet.
Non, reste là.
Dans ce studio. Pop culture, c'est... Alors, juste pour le plaisir de faire feuler les mouches en vol, on va la distinguer de la culture pop. Mm-hmm. Et moi, je ne prends pas la peine d'appeler le modérateur à chaque fois, mais je suis souvent scandalisé en écoutant cette émission, en voyant que nombre de vos invités font l'amalgame et ne sont jamais contredits ni repris. Mm-hmm. Alors que c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir.
Une bonne occasion. De...
c'est un peu pour ça que je suis venu. Et effectivement, la culture pop, c'est tout ce dont ils parlent. Mm-hmm. Et la pop culture, c'est le reste. La pop culture, c'est justement ce qui est au-delà, ou plutôt en deçà du culturel. C'est-à-dire, ça inclut aussi bien le kibeski que les prénoms des candidats à la télé-réalité, que les slogans publicitaires. C'est l'air du temps. C'est ce qui vient, c'est ce qui permet à deux Français qui se croisent dans la jungle de Bornéo de s'identifier comme tels, parce que l'un des deux dira à l'autre, ah bah je ferai pas ça tous les jours.
Mmh. Voilà. Très c'est bien, ça, on peut la définition qui me convient. Ah,
j'espère, oui.
Tu valides.
On la valide.
Mmh.
Ok.
On n'a pas le choix de toute façon.
Non, on n'a pas le choix. Laurent Chalumeau, on le sait.
On est déjà en retard.
Pas du tout. On le sait, vous écrivez, et vous écrivez, et vous écrivez. Vous écrivez pour vous, mais également pour les autres. Je pense à Bertrand Burgala, avec notamment le morceau « Les choses qu'on ne peut dire à personne ». Cet extrait de son dernier album qu'on écoute tout de suite.
D'inutiles regrets au fond de nos jardins secrets et dans leur coin de vieux remords 20 ans après fleurissent encore ainsi nos chemins se jalonnent de choses qu'on ne peut dire à personne. Des fleurs clandestines tirent leur sève, des pleurs qu'on ravale, des vieux rêves. Tout ce que nous sommes seuls à savoir devient le lierre de nos mémoires et donne à l'air le goût d'automne. Des choses qu'on ne peut dire à personne. L'épreuve où l'on s'est trouvé lâche. Triste courage qu'on cache. On oublie ni ne se pardonne. Les choses qu'on ne peut dire à personne. À quoi servent les vieux regrets que l'on n'exprimera jamais? Pourquoi donc tous ces vains remords reviennent nous accuser encore? Et le cœur peine chargé du poids ce que l'on doit garder pour soi. Et le cœur peine chargé du poids de ce qu'il ne peut dire même à toi.
Chose qu'on ne peut dire à personne, c'est dans Pop 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 sur France Inter, un morceau de Bertrand Burgala, écrit par Laurent Chalumeau, notre invité aujourd'hui. Alors, quelles sont les choses que vous ne pouvez dire à personne, Laurent Chalumeau?
Eh bien, même pas à vous.
Ah,
je ne peux les dire. Ah
vraiment,
oui, c'est vraiment des trucs que je peux dire à personne.
Ok.
Et même à son père.
D'accord. Bertrand Burgala, qui insistait sur vos talents de parolier, en rappelant que vous passez avec une facilité déconcertante d'un registre à l'autre, puisque c'est aussi vous qui aviez écrit pour Jeanne Faustin, le mythique La taille de... Mon amour,
ton la taille amour. De ton amour,
de
oui.
Ton amour,
c'est
oui.
Si tu veux ce soir empêcher mon départ, il va falloir revoir La taille de ton amour.
C'est bien vous, Laurent Chalumeau, je vous connais par cœur. Et je sais que derrière cette plume vénère se cache un petit cœur qui bat. Qu'est-ce qui le fait battre? Réponse avec votre pop portrait.
Mais, alors, c'est quoi juste un pop portrait?
Bah alors votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de
c'est signé Charline Rourou.
Ça va être compliqué. Aujourd'hui, nous recevons un justicier. Pour fendeur de bas du front à rouleau, trembler les cochons, votre parenthèse enchantée, enfin en même temps c'était vraiment une très très grosse parenthèse hein, que l'on pourrait appeler l'histoire de l'humanité, va bientôt se refermer. Je tente la pensée magique. Un auteur féministe qui n'hésite pas à déclarer « Je ne crois pas à la supériorité des quéquettes ». Ça se fête et puis surtout ça se met dans une collection parce qu'autant vous dire que vous n'êtes pas légion. Hein. Paroles rares, verbes affûtés, une certaine radicalité, combo explosif, jouissif, grinçant et même hilarant. Oui, je suis clairement sociopathe. Ainsi est vénère son dernier né à faire de vengeance vêtu d'une jaquette jaune vif qui n'est pas sans rappeler la tenue portée lors d'une autre vendetta, celle-là.
When I woke up, I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction.
C'est Uma Thurman, The Bride, dans Kill Bill, qui effectivement a beaucoup rugi, saccagé, avec énormément de satisfaction, exactement le genre d'état dans lequel vous laissera ce vénère-là.
Mmh. Ça, c'est du pop portrait.
Ça,
alors.
C'est du pop portrait.
Il y avait du pop, 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 pop dedans. Hein.
Et pourquoi n'êtes-vous pas venu dans la combi jaune, moulante de The Bride, de Kill Bill?
Alors, je préfère qu'on reste amis.
On reste amis. Maintenant que nous savons un peu mieux qui vous êtes, mon cher Laurent, essayons d'en savoir un peu plus sur vos goûts en matière de livres, de films, de musique et autres séries. C'est le moment de la...
Poplist, non?
Mais oui, bien sûr.
C'est une longue émission.
Et je vois que j'ai affaire à un habitué. Alors, pour le livre, vous avez choisi Rock Dreams de Guy Pellart et Nick Cohn, un livre publié en 1973. Écoutons Guy Pellart parler de sa collaboration avec Nick Cohn dans l'émission À voix nue sur France Culture.
Mariage était très bien parce que Nick était le spécialiste. Nick, et ce que je voulais surtout pas faire, c'était un livre de spécialiste, parce qu'à l'époque, il y avait que des livres de spécialistes. Et donc, le mariage du spécialiste et du passionné, c'était bien parce que finalement, j'ai répondu aux rêves de pas mal de gens qui finalement s'y sont retrouvés. C'est parce que justement, c'était pas un livre de spécialiste, c'était un livre d'amour de cet univers-là, et de jeunesse et de tendresse.
Mmh. Certains disent même un des plus grands livres sur le rock.
Ah, pour moi, c'est le plus grand livre sur le rock, parce qu'il rend d'une certaine façon tous les autres inutiles. Il faut rappeler ce que c'est. C'est le, comme son nom l'indique, c'est des rock dreams, c'est les rêves rock. C'est Guy Pellard, qui est quelqu'un qui, un peu comme Steve Van Zandt, mais pour d'autres raisons, fait mentir l'adage selon lequel la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, puisque Guy Pellard était déjà connu pour avoir créé les bandes dessinées Pop Art, mm-hmm. Jodel et Pravda, la survireuse. Et puis... au début des années 70, l'envie lui vient de rendre justice à son amour du rock, et en utilisant des nouvelles techniques qui en fait préfiguraient le Photoshop, sauf que Photoshop n'existait pas. Alors avec des trésors d'ingéniosité, il réussit à faire de l'hyperréalisme, mmh. en mélangeant photos, peintures, aérographes, enfin, je ne sais quoi, et à produire comme ça des espèces de mises en situation fantasmatiques de tous les géants, de toutes les icônes du rock dans toutes ses ramifications. Du moins jusqu'en 1972 ou 73. Et ces images absolument somptueuses étaient légendées donc par le Nikon en question, qui était un peu le père fondateur. C'est à la rock critique ce que d'une certaine façon Chuck Berry pourrait être au rock and roll lui-même. Et moi j'ai pris ça, mais comme si j'avais été renversé par un bus quand j'avais 13 ans. En fait, j'y étais venu par le graphisme. Parce qu'à l'époque, comme plein de gamins de ma génération, j'avais envie d'être dessinateur de bande dessinée. Je passais mon temps à dessiner. Et donc, j'étais tombé en arrêt devant ces peintures. J'avais quelques disques à la maison, évidemment, mais je savais pas. Enfin, je pouvais pas dire que je connaissais le rock. Et en fait, c'est grâce aux peintures de Guy Pellard que je vais commencer à m'intéresser à certains artistes et à certains genres musicaux en utilisant ces dessins comme des cartes Michelin. Mais c'est même aller plus loin que ça, c'est que quand j'ai commencé à travailler à Rock et Folk, il n'y avait pas internet, mm-hmm. parfois on me demandait de chroniquer un disque, je ne savais pas trop qui était le gars, j'allais me mettre en face du dessin de la planche de Guy Pellard, et voilà. Et je termine juste en disant, c'est un bouquin qui m'a appris tout ce qu'il pouvait y avoir toutes les vertus dynamiques que pouvait avoir la vulgarité, et surtout la part de vérité que contiennent les clichés et l'intérêt qu'il y a à jouer avec les codes d'un genre. Mmh. Voilà. Donc Rock à 13 ans, tout ça m'est tombé sur la gueule en même temps, et c'est pour ça que c'est un livre absolument fondateur.
Rock Dreams de Guy Pellaert, un livre absolument indispensable, hein, je le dis pour ceux
qui
ne le connaîtraient
pas encore. Il faut d'ailleurs plutôt essayer d'acquérir, non pas dans la dernière édition Taschen, où les reproductions sont assez décevantes, mais en achetant d'occasion la réédition de 82 chez Albin Michel.
Voilà. Voilà qui est précis, merci. Alors nous passons maintenant au cinéma, et là vous avez choisi ça.
Frank sent us. Did you bring a horse for me?
Well, looks like we're shy of one horse.
You brought too many.
Il était une fois dans l'Ouest, et la musique d'Ennio Morricone, c'était en 68. Vous aviez 9 ans à la sortie du film.
Oui,
vous n'affichiez pas encore cette magnifique barbe à la Rodin.
Non, mais alors justement, ça a été un drame parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu l'harmonica, mais comme si j'étais Bernadette Soubirou et que la Vierge m'appelait. C'est-à-dire que ça m'a instantanément parlé, mais avec une intensité dont j'assume le ridicule. Et je me suis pris de dilection obsessionnelle pour ce film, quand bien même je ne pouvais pas le voir. Donc je découpais dans les magazines évidemment, avec mon argent de poche, j'ai acquis la bande originale que j'écoutais en boucle presque plus assidûment encore que les Beatles. Il a fallu que j'attende de longues années pour, enfin, ou trois ou quatre pour pouvoir le voir. Quand je l'ai enfin vu, c'était encore mieux que dans mon attente. Évidemment, je profitais de chaque diffusion d'extraits à la télévision. Et je parlais à l'instant, à propos de Guy Pellart, du travail sur le cliché et sur la subversion, le détournement et la célébration des codes d'un genre. Bah, il était une fois dans l'Ouest, là aussi. Alors, à peu près, d'ailleurs, au même moment que Rock Dreams. Mm-hmm. C'est il y a une coïncidence de date. Je me suis pris ces deux trucs-là en même temps, et ça, je crois pouvoir dire que j'ai maintenu de façon plus ou moins affirmée ces obsessions-là dans tout mon travail depuis.
Alors nous avons un film, nous avons un livre, il nous faut maintenant une série, et la série c'est Studio 60 on the Sunset Strip, série créée par Aaron Sorkin, diffusée entre 2006 et 2007 sur NBC, une série qui nous plonge dans les coulisses d'une émission américaine du type Saturday Night Live. Bande annonce.
Critics call Studio 60 one of the fall's best new shows.
What are you all wearing?
It's no longer cool for grown men to dress as if they're in junior high school. We're gonna dress, talk, and behave professionally.
You are an adolescent, oversexed whoremonger.
And all that will begin in just a few minutes.
Mm-hmm. Connaissez bien les coulisses des émissions de télé, c'est fidèle.
Alors, c'est une série de Aaron Sorkin, le créateur de À la Maison Blanche, et puis le scénariste
Social Network.
Que l'on sait. À la Maison Blanche, déjà, ça peut souvent vous amener au seuil de la lacrymalité, mais des larmes de joie ou des larmes d'émotion pure, positive. Et alors, Studio 60, je dois dire que j'ai eu la prunelle plus qu'embuée. J'ai eu des Niagara qui m'ont dévalé les joues plein de fois, parce que ça me renvoyait à une période absolument bénie de mon existence où j'ai eu effectivement la chance de voir combien sont nobles et enthousiasmant les métiers de la télévision. Parce que donc c'est une émission, c'est une série qui chronique les arrière-boutiques et les coulisses de la fabrication d'un show de comédie télévisée, et donc qui s'attache à la vie des auteurs, des producteurs, des accessoiristes, enfin de toute cette population. Et généralement, quand on parle de la télévision, quand on représente la télévision dans des fictions, c'est toujours pour, là pour le coup, aller dans des clichés qui est un peu recuit et décongelé trop souvent. C'est l'animateur mégalomane et tyrannique, les costards cravates qui pensent qu'aux audiences, enfin tout ça peut exister, mais à la télévision, et singulièrement pour les gens qui font de la télévision en direct, c'est-à-dire des gens qui produisent ce miracle qu'on a fini par complètement banaliser, et qui font en sorte que quand vous allumez un appareil chez vous, il y a un signal qui arrive et qu'il y a des gens qui rentrent dans votre salon ou dans votre chambre à coucher. Mmh. C'est quelque chose dont j'ai du mal à parler sans effusion et sans émotion, parce que c'est des souvenirs absolument magiques.
Alors sur exactement le même sujet, même année 2006, sort une autre série qui s'appelle 30 Rock avec Tina Fey et Alec Baldwin, et en fait celle que vous avez choisie est celle qui n'a pas survécu aux deux, en fait.
Oui, mais c'est parce que en fait, j'ai un vieux fond Chialard et Midinette.
C'est Mathieu Perry, c'est l'effet Mathieu Perry.
Ouais, Aaron Sorkin surtout. Ouais. Mais non, c'est effectivement il y a cette série absolument magnifique de Tina Fey. Mais elle a l'élégance de faire le pas de côté. Et c'est pas pour ça que les métiers et tout ce qu'il peut y avoir de beau et d'engageant dans la pratique des métiers de la télévision n'y sont pas célébrés. Mais elle est beaucoup plus pudique. Alors que Sorkin, voilà, lui il y va. Lui c'est Monsieur Plus de Balzen. Et moi j'ai un faible pour comment dire, la mièvrerie, c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait.
Et les souvenirs heureux de télévision que vous évoquez renvoient à ces 5 années de bonheur.
Oui, c'est-à-dire qu'en dépit de la personnalité et de l'haleine un peu abrasive.
Non, c'était, on parle de Nulle part ailleurs, c'était
absolument.
Voilà,
oui, oui.
Fin
non,
des
non,
années
c'est
80.
Ça. Ah, parce okay. que vous connaissez, mais vous
oui,
connaissez
mais
en
oui,
fait.
Mais oui.
Ah, ouais.
Bien, alors le jeu vidéo, pour le jeu vidéo, Laurent Chalumeau, vous avez choisi Mon Petit Poney. Quel est exactement votre degré d'addiction à Mon Petit Poney, Laurent Chalumeau?
J'ai été bien soigné. J'ai réussi à m'en sortir, mais je suis passé à
non,
ça.
Mais,
je suis vraiment.
Mais oui, non, mais aucun
on ne voit
jeu...
pas la radio. Alors là, il faut imaginer un index et un pouce avec très peu d'espace entre. À ça, je suis passé.
Aucun jeu vidéo, aucun. Même pas un jeu d'arcade, même pas un Pac-Man,
non,
un Tetris.
Non, j'aimais bien le Flipper.
Oui, d'accord, mais ça c'était avant.
Oui, c'est parce que je dis. Mais pour moi, c'était mieux avant.
D'accord, c'était mieux avant. Eh bien, finissons cette pop liste avec la chanson. Et pour la chanson, c'est ça.
He said, yeah, sure, right. Wanna tell a second mother this has been done. second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61.
Highway 61 Revisited, la version Johnny Winter en studio, sortie en 69 sur l'album Second Winter. Alors ça, c'est un vrai choix et un choix étonnant parce que Highway 61, Dylan, on peut comprendre, l'homme de mots que vous êtes. Là, c'est la musique qui est privilégiée très nettement dans ce morceau.
Non, justement, c'est le mariage des deux. Puis c'est l'occasion pour moi de dire à Alain Finkielkraut et à Pierre Assouline qu'ils peuvent se mettre à quatre pattes et laper le sperme de Dylan sur le carrelage, à même le sol. Puisqu'on s'en souvient, ils avaient jugé du haut de je ne sais quoi que le Zimmerman était indigne d'aller chercher son prix Nobel. Oui. Et les Américains ont une espèce comme ça d'arlésienne ou de vache sacrée illusoire ou de baleine blanche qu'ils appellent the Great American Novel, le grand roman américain qui serait dans leur esprit un peu un mélange de la comédie humaine et de la légende des siècles, c'est-à-dire le roman qui saurait capturer l'expérience américaine dans toute sa complexité, dans toutes ses ramifications. Et ben le voilà. Cette chanson singulièrement. Alors je vais faire court, promis.
Regardez-moi dans les yeux.
Je vais faire court. La Highway 61, c'est une route qui est parallèle au Mississippi, donc qui coupe les États-Unis en deux, donc qui traverse les régions où sont nés le blues pour arriver jusqu'à la ville où est né le jazz. On peut dire que c'est elle qui détermine l'Est et l'Ouest des États-Unis. Et Dylan, donc, sur un fond musical de blues, parce que même dans sa version à lui, le bottleneck est moins strident, mais il est présent, entremêle des références bibliques racontées à la façon d'un roman noir, le fameux premier couplet. Après, il convoque les surréalistes, les symbolistes, c'est-à-dire que on parle parfois de ville-monde, c'est une chanson monde. C'est la chanson qui, si on devait envoyer une time capsule comme ça dans l'espace pour les martiens, pour leur expliquer ce qu'aura été non seulement la culture américaine, mais l'Amérique elle-même, cette chanson ferait l'affaire. C'est pour ça que Alain Finkielkraut et Pierre Assouline peuvent mais se mettre
ne,
à quatre
pattes. Ne répétez pas, j'ai une image cauchemardesque dans la tête.
Mais dans la version de Johnny Winter, donc.
Non, parce que celle-là était un peu plus je t'envoie du pâté, d'accord, si j'ose dire, okay, à Alain Finkielkraut et à Pierre Assouline. Alors, tu les mets à quatre pattes. C'est en train de laper sur le carrelage.
Et on sait ce qu'il lape. Je résume donc Rock Dreams, Il était une fois dans l'Ouest, Studio 60 on the Sunset Strip, Highway 61 Revisited. Je mets tout ça dans mon mixeur.
Le mixeur de pop culture peut-être.
Mais oui, dans mon mixeur de pop culture, exactement. Celui qui fait ce son étrange, et ben ça nous donne ça.
J'ai répondu aux rêves de pas mal de gens.
Yes, you're right. Wanna tell the second mother this has been done.
You bring a horse for me?
Ah, yeah, j'étais très bien parce que Nick était le spécialiste.
Looks like we're shy one horse.
What are you all wearing?
C'est un livre d'amour de cet univers-là et de jeunesse et de tendresse.
It's no longer cool for grown men to dress as if they're in junior high school.
Voilà ce qu'il y a dans la tête de Laurent Chalumeau.
Encore, vous ne savez pas tout.
Non.
Parce qu'il y a des choses que je ne peux dire à personne.
Non, et qu'on ne dira pas ici. Laurent Chalumeau est dans Pop, Pop, Pop et nulle part ailleurs pour parler de son dernier roman Vénère. On en parle juste après avoir écouté un morceau du nouvel album de Janelle Monáe, Make Me Feel. Yeah.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make.
That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket right now.
laying your body on the shag carpet. Ooh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
Janelle Monáe, Make Me Feel, cet extrait de son dernier album.
C'est juste la façon dont il l'a fait se sentir, non?
Dirty Computer. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Ah non?
Non, c'était non. Pour changer un petit peu, Laurent. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Laurent Chalumeau, venu nous parler de Vénère, son dernier roman publié chez Grasset. Tu dois te demander ce que tu fais là, à poil, menotté au tuyau du gaffeur sur la tête. Oui, pardon, c'est ainsi que s'ouvre Vénère, votre dernier roman. Et c'est aussi la question que je vous pose aujourd'hui dans le studio.
Je suis pourtant vêtu et libre de mes mouvements.
Oui, mais ça vous est déjà arrivé parce que ça semble vécu.
Non, c'est du method acting, comme disait Stanislavski. C'est une possibilité d'extrapolation comme ça.
Vénère, c'est le récit à la première personne d'Alain, cinquantenaire vidé de son job, quitté par sa femme, qui décide de se venger de tous ceux qu'il estime responsables de sa situation. Est-ce que vous l'avez d'emblée imaginé comme un monologue ?
Oui, c'est même de là qu'est venue l'envie. J'avais envie d'écrire un truc à la première personne. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que je ne l'avais encore jamais fait dans un roman. Je connaissais déjà l'emploi du jeu, dont j'avais usé, voire abusé à mes débuts. Dans mes articles, je m'en étais beaucoup servi, à l'évidence, quand j'écrivais avec le Librius, qui est entre nous deux.
C'est moi.
Oui, c'est lui.
Oui, c'est
des sketchs qu'il interprétait avec ou sans José Garcia. Mais dans les romans, peut-être parce que au début, je ne voulais sous aucun prétexte renoncer au plaisir grisant et à la bouffée d'hyperpuissance procurée par le sentiment d'être un narrateur omniscient, j'avais pas utilisé le jeu. Et là, je voulais voir l'effet que ça faisait. Et du coup, je voulais quelqu'un qui dise « je », mais alors, pas n'importe comment, avec des pop-pop-pop dedans, parce que ne me demandez pas pourquoi, mais très clairement, je me suis dit que ça allait être le chaînon manquant. Chaînon dont l'absence ne dérangeait que moi, hein, mais le chaînon manquant entre une chanson de Bruce Springsteen, oui, mais pas n'importe quelle chanson de Bruce Springsteen, une chanson de Bruce Springsteen sur l'album Nebraska, c'est-à-dire là pour le coup vraiment des chansons à la première personne, où ce sont des laissés pour compte, des cabossés du rêve américain ou des criminels plus ou moins en cavale qui se racontent, et de l'autre côté du spectre, un roman de Philippe Djian qui sont, sinon toujours, du moins très souvent, aussi racontés à la première personne. Et donc, moi, faufiler quelque chose qui serait l'espèce de passerelle entre les deux, mais une première personne qui, dans mon esprit, allait évoquer celle qu'utilise Jim Thompson dans certains de ses romans, où ce sont des psychopathes, souvent des shérifs sadiques et dérangés, qui raconte sur un ton extrêmement convivial, badin, nonchalant, par le menu et en détail, et même avec une certaine jubilation, les horreurs qu'ils commettent. Voilà.
On comprend que Alain, le personnage, soit énervé après avoir perdu son boulot, sa femme, ses enfants. Mais pour bien écrire l'énervement, il faut être énervé soi-même. Généralement, on se calme avec l'âge. Or, j'ai l'impression que l'âge a sur vous l'effet exactement inverse. Est-ce que je me trompe ?
C'est... Alors, peut-être. Il y a aussi... Alors, pardon, parce que je vais dire quelque chose qui va sembler être très impudique. Et sans doute, cela l'est-il. Mais... Il y a eu un élément absolument décisif sur la tonalité de mon travail et que j'avais pas vu venir, c'est le décès de ma mère. Mm-hmm. Il y a, je sais même plus, 2 ans, 3 ans.
Oui, vous n'auriez pas publié le livre de son
livre, non, je n'aurais pas publié de telles insanités, sachant que ma mère pouvait les lire, vous rigolez. Mais bon, du coup, maintenant qu'elle n'est plus là, c'est vrai qu'il y a des digues qui ont lâché. Et en fait, je dis pas que ma mère est morte au bon moment, la pauvre, mais en tout cas, cette liberté ce déblocage, cette libération de la parole, comme on dit de nos jours, intervient à un moment où effectivement, je pense avoir, dans une certaine mesure, les moyens techniques de rendre justice au noir dessin qui peuvent me venir. C'est-à-dire que le livre Vénère, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais je pense que si j'avais dû l'écrire il y a 5 ans, il aurait été absolument indigeste. J'aurais pas su savoir quoi mettre et surtout, encore plus important, quoi ne pas mettre. Et ça, c'est de la technique, c'est de la maturité.
Harcèlement, consentement, des mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Alors que vous avez attaqué l'écriture de Vénère avant l'explosion du scandale Weinstein et la libération de la parole successive aux méfaits de ce genre de puissant. Quel effet ça vous a fait? Et puis, est-ce que ça a modifié quoi que ce soit votre manière d'appréhender le roman?
Non, parce que j'avais vraiment quasiment fini. J'étais vraiment dans la toute dernière longueur. Ce serait mentir que de dire que pendant une nanoseconde, je me suis pas demandé si ça allait aider ou au contraire torpiller la carrière de mon livre ou au contraire n'avoir aucune incidence. Mais assez vite, ces viles préoccupations ont été étouffées par la bouffée de satisfaction, d'enthousiasme. Un peu retombé depuis, mais quand même dans un premier temps, savoir qu'un aussi flagrant enculé de sa mère, qu'une aussi patente merde humaine était neutralisée, déjà c'était une bonne nouvelle. Et puis tout ce qui s'en est suivi dans un premier temps, moi je suis en dépit de l'âge qui vient, je reste très très naïf et angélique, et c'est pour ça aussi que j'aime bien le travail d'Aaron Sorkin, parce que si on me dit j'ai eu un rêve, j'ai vu un monde dans lequel les hommes se tiendraient la main, je dis oui. Ou si on me dit mon ennemi c'est la finance, j'y crois. Enfin moi je suis vraiment je suis con. Et j'ai cru que effectivement on allait laisser les chiottes un peu plus propres qu'on les avait trouvées. La messe n'est peut-être pas dite, mais j'ai l'impression que le soufflet retombe, ça fait pchit, et il y a quelques prédateurs identifiés qui ont passé de mauvaises fêtes, mais là, je pense qu'ils recommencent à respirer par le nez, et je le déplore. Pour autant, tout n'est pas perdu, il y a quand même un processus qui est enclenché.
Laurent, vous connaissez cette émission par cœur, vous savez que maintenant, c'est l'heure de...
Non ?
Des pop news ! Voilà.
J'y arrive pas aujourd'hui.
C'est comme ça.
Ah, il en met partout, c'est dégueulasse.
Un nouveau titre pour Kiddy Smile, artiste, producteur et roi du voguing français. Un titre dévoilé sur la bande originale de Climax, le film de Gaspard Noé présenté à Cannes. Et un titre désormais accompagné d'une vidéo dans laquelle Kiddy joue les psys que ses patients viennent consulter et confier leur obsession pour les dicks. Je ne parle pas du chanteur à bananes, mais bien de... Et puisque le nouveau single est évidemment intitulé Digmatized. Doctor, what can I do? Et le premier album de Kiddy Smile, One Trick Pony, sortira lui le 31 août.
S'actu, grosse actu pour le meilleur d'entre nous, cité encore il y a quelques instants dans cette émission. Eh oui, ça faisait longtemps que nous n'avions atteint le point Springsteen. Le boss triomphe depuis des mois avec ses shows intimistes à Broadway. En juin sera vendu aux enchères chez Sotheby's le manuscrit de Born to Run. Et ultime bonheur, demain sortira The Album Collection 1987-1996, soit un coffret de 10 vinyles, parmi lesquels Tunnel of Love, Human Touch, Lucky Town, The Ghost of Tom Joad, le double vinyle MTV Plugged, The Chimes of Freedom et Blood Brothers. Le tout accompagné d'images et documents rares. Et avis à tous les fans, soyez bien à l'écoute demain, on vous réserve une petite surprise qui fera un heureux. Ça, c'est du teasing.
La séquence qui va suivre s'appelle dans ton canne.
Eh oui, et comme chaque soir, nous allons prendre la température de la croisette avec notre chroniqueur qui préfère passer ses nuits avec Paris Hilton au VIP room plutôt que de se lever pour aller voir la Projo de 8h du matin. Renan Cros, en personne. Allez, on se connecte, comme on disait dans Love Story. Renan ?
Allô Antoine.
Bonjour Renan.
Bonjour Antoine, bonjour Charline, bonjour Laurent.
Bonjour.
Je suis absolument en désaccord avec ce que vous venez dire, je me lève tous les matins pour voir des films.
Bien sûr.
Je ne sais pas, mais je me lève.
Bien sûr, c'est pas peine de se lever. Alors on approche de la fin du festival, il y a du monde dans ton Cannes ?
Et de moins en moins de monde, ça y est, oh, Cannes est triste. En train de fermer ses portes. Et hier avait un peu lieu l'enterrement de la pop culture à Cannes, mm-hmm. avec deux films présentés coup sur coup, un en séance de minuit et un en compétition officielle. Le premier était un documentaire sur Whitney Houston qui s'appelle Whitney, mm-hmm. qui était un peu un film très attendu. On avait vu Amy, vous vous souvenez, ce documentaire à Cannes il y a quelques années. Là, on se demandait chose, et ben non. C'est plutôt un film étrange, assez troublant sur la manière dont Whitney Houston a été sacrifiée, la façon dont son histoire finalement personnelle a pris le pas sur sa vie. Évidemment, on nous raconte à quel point c'est une grande artiste, mais il y a quelque chose d'un peu du secret de famille qui se révèle, qui montre que les icônes de la pop culture souffrent pas mal sur les grands écrans de Cannes. Mmh. Et sinon, un deuxième film. Alors là, c'est mon pop-pop-pop palmarès, ma pop-pop-pop palme d'or, un film de David Robert Mitchell qui s'appelle Under the Silver Lake. Mm-hmm. Alors, je sais pas si vous connaissez David Robert Mitchell. Charline, je suis sûr qu'elle le connaît.
Charline ?
Moi, je sais qu'il y a surtout Andrew Garfield dans le film. C'est tout ce que j'ai retenu.
Eh ben, voilà.
Elle est obsessionnelle avec Andrew Garfield.
Sur ma Charline. Effectivement, David Robert Mitchell, c'est un jeune réalisateur dont on avait vu It Follows, le film d'horreur génial il y a quelques années à Cannes. Ouais. Il est revenu en compétition avec un film étrange sous influence Thomas Pynchon et Raymond Chandler. C'est une sorte de trip comme ça à Los Angeles, un hipster qui voit des complots dans la pop culture, qui voit des messages cachés derrière les jeux vidéo, derrière les chansons de rock qu'on passe à l'envers. C'est un film un peu étrange, un peu nébuleux, on y danse sur la tombe d'Hitchcock, on y croise des sosies de Marilyn. C'est vraiment un film parfaitement pop-pop-pop. Moi, c'est ma palme pour l'instant du Festival de Cannes.
Merci Renan, merci beaucoup.
Et à merci Antoine.
Et à demain pour le dernier numéro de Dans ton Cannes.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Laurent Chalumeau, je sais que vous aimez les concerts et je vois que vous regardez d'un air admiratif la scène, la magnifique scène de Pop 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 qui ressemble étrangement, je suis d'accord, à celle du Madison Square Garden. C'est assez dingue, non, quand même, comme installation dans ce studio. Et c'est sur cette scène
même... débauche de moyens. Bah oui, au moins, on sait où vont nos impôts. Et en tant que contribuable, ça me ravit, personnellement.
Et c'est sur cette scène que s'installent en ce moment les excellents, le groupe de Ramon Pipin et Camille Saferis. Enfin, quand je dis le groupe de Camille Saferis et de Ramon Pipin, ils ne sont que deux en même temps.
Il y a aussi des invités parfois.
Il y a des invités parfois. Ouais. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Et ils s'installent pour nous jouer un melting pop des titres qu'ils trashent. Pardon, qu'ils reprennent. Messieurs, vous êtes prêts ?
Absolument.
Parce que juste après mon pop, c'est parti. 3, 2, 1.
Comme elles ont été.
Non, pas du tout.
J'agis bizarrement.
Hey.
Je sais pas pourquoi. Excuse-moi si j'embrasse le ciel.
Woo! Solo. Solo avec les dents.
Avec les dents.
Aïe, oh putain, attends, non mais arrête, je me suis fait super mal. Ouais, attends, arrête,
vas-y,
arrête,
continue, arrête, continue.
Attends, mais comment Hendrix?
Bah Hendrix, il avait 27 ans, moi j'en ai 38, j'ai mal aux dents, j'ai des couronnes et tout.
Alors,
ça.
Alors s'en fout, vas-y, continue.
Wouh. J'ai mal, arrête.
Et puis,
bah oui, et la denture, c'est la denture, mon vieux.
Oh non.
La denture, c'est la denture.
Je suis prêt à mourir pour un bon jeu de mots, tu le sais.
Bah oui, non, je non, vois. Non, mais... nous sommes encore
vivants. Bon, allez, on va passer au suivant. Il y a un deuxième morceau qui
arrive. Il
y a un deuxième morceau. Attends. Trois.
Je suis pas accordé.
Trois, quatre.
Wouh! Pas besoin d'être bien gaulé. Séduire, ni d'être gentil pour me conquérir. Tu n'auras qu'à faire chauffer sans faire cramer. Et en prenant longtemps une quiche.
Quiche.
Quoi?
Bah quiche.
Bah ça
quiche,
va.
Quiche, quiche.
Je t'embrasse.
Mais n'en profite pas non plus.
T'as bien mis la langue dans les loges tout à l'heure, alors.
Putain. Lamentable. Je quitte le groupe.
Messieurs, ouais. Les excellents, ça s'appelle ce groupe.
Ouais.
Et c'était vraiment excellent.
C'était une chanson de Prince.
Oui, de Prince. De Prince.
Ouais. Quiche.
Quiche de Prince, oui. Laurent Chalumeau, un commentaire ah d'expert non, sur non. Ce que vous venez d'entendre.
Ah non, justement, non. Le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart.
Parce que je vous ai aperçu au concert de Ramon Pipin, et avec cette parenthèse des excellents, c'était il y a un mois au Café de la Danse. Donc vous êtes vous faites partie de la bande quand même. D'une certaine manière.
Si on pouvait ne pas ébuter ce secret honteux, non. J'avais vu de la lumière, j'étais rentré, mais vraiment c'est le plus grand des hasards.
Oui, vous saviez pas que ça allait être ça, mais
j'espère que vous notez qu'on fait quand même œuvre culturelle. Hein. C'est-à-dire d'abord on est des virtuoses réclamées dans le monde entier pour notre doigté, j'ai envie de dire.
Mm-hmm.
Mais en plus, on fait une œuvre culturelle puisqu'on traduit, enfin, on adapte en français ces standards que la plupart du temps on connaît,
c'est ça, vous.
Mais dont on connaît pas véritablement le sens.
Oui, vous permettez à un public qui n'est pas anglophone d'accéder, d'accéder à ces standards.
C'est exactement notre démarche.
Dans le dossier de presse réalisé par vos soins, je le signale, on peut lire une critique de Rolling Stone. Je cite :« Leur renommée s'étend actuellement comme une traînée de poudre. Sting les veut pour son concert, Kanye West aussi. » Alors j'ai demandé à Simon, notre stagiaire, d'éplucher tous les derniers Rolling Stone magazines, mais il n'a rien trouvé.
Très étonnant.
Comment expliquez-vous ce mystère ?
C'est très étonnant.
Moi, je ne suis pas responsable. C'est pour moi qui m'en suis occupé.
J'ai demandé à la presse s'il y a eu un problème quelque part.
Ouais. Parce que nous recevons Sting la semaine prochaine. Vous voulez que je vérifie l'info directement auprès de lui ?
Il m'a laissé un message tout à l'heure et il nous attend pourtant en studio. Mais je pense que bon, c'est la presse. Hein.
Je travaille. Hein.
Un message dans une bouteille.
C'est
une
prochaine vidéo. Ouais. Alors ça va s'appeler massage dans un bordel. C'est un peu.
je peux juste avoir la ligne mélodique, s'il vous plaît.
Massage dans un bordel.
On y est presque.
Alors Sting vient d'appeler et bizarrement il fera pas l'émission. Je ne sais pas pourquoi.
Sting vient d'annuler.
Un conflit d'intérêts.
Laurent, ça pourrait inspirer le parolier que vous êtes.
Oui, mais ces deux Lascars n'ont besoin de personne, à Harley Davidson, hein, visiblement.
Et puis c'est vrai, mais c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail.
J'espère.
Ouais. Vous partagez tous, enfin en tous les cas, Ramon et Laurent, une passion pour les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actifs. Quelles sont votre dernière intervention, Ramon ?
Oh, je sais plus, c'était ce matin, mais je me souviens pas ce que j'ai mis. Franchement, non, je sais plus.
C'était plutôt un commentaire à chaud, une plaisanterie.
Moi, ça devait être sur Alain Finkielkraut.
Encore.
C'est une obsession, ça s'appelle.
Encore.
Non, je sais plus. Heureusement, je suis un peu plus calme, hein, quand même. Mm-hmm. Un peu plus calme.
Moi, je l'ai, le dernier tweet de Ramon.
Allez-y.
C'est quoi ?
Parmi les 50 entreprises préférées des jeunes Français, figure en bonne place dans l'Opilo.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Bien. Laurent Chalumeau, Ramon Pipin,
merci.
Camille Saferis. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. J'y vais.
C'est là qu'il faut mettre le putain de disque.
Oh, ben ça alors, c'est marrant. Mais ils ont réinstallé le décor de Nulle part ailleurs pendant la nuit. Waouh, mais c'est dingue. On dirait un arrêt sur image. Tout le monde est là, mais comme gelé sur pied. On se croirait au musée Grévin, mais en plus ressemblant.
Hé, hey, toi là.
Ah non, il y en a un qui bouge, tiens, c'est Didier.
Ouais, c'est Didier, le plus grand fan de Dick, après Dick lui-même.
Oui, je sais, ça va Didier.
Ta gueule. Non, ça va pas. Déjà, je vois toujours pas de Dick dans ton pop-pop-pop de merde. Et si ça, c'est pas une bonne raison d'être vénère, ben moi, je vois pas.
Ah, mais il viendra, c'est promis. Tiens, pour son anniversaire, le 24 avril.
Hey, on est au mois de mai, là. Ah, d'accord. En plus, tu te fous de ma gueule. Oh putain, tiens, regarde ta cave, tout est vinyle pourri, regarde ce que j'en fais.
Wow, 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 non, non, Didier, Didier, on se calme, ça sert à rien de tout péter, de toute façon elle n'existe plus l'émission.
Mon petit, je bouge.
Oh mon petit ouin-ouin. Oh bah alors ça, ça me fait plaisir. Ça va, ouin-ouin?
Ben non, ça va pas. Moi aussi, je suis vénère.
Bah, alors bon, et pourquoi ça?
Moi, c'est à cause de Monsieur Gildas.
Quoi, il est là, Monsieur Gildas?
Oh, non, là, il est à l'hospice. Mais il vient le week-end. Et à chaque fois, bah, il faut que je m'assoie sur ses genoux.
Bah, c'est gentil, ça. Mais c'est parce qu'il t'aime bien.
Oui, bah, tu vois, il m'aime un peu trop, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il me dit toujours, pin vitre, il n'a pas d'organe, pin vitre, il n'a pas d'organe. Mais non, il suffit de chercher un peu.
Bon, ben attends, calme-toi, je vais lui parler, d'accord?
Sinon, Raoul, il peut lui parler, hein, au Breton Santerre.
Oh, Raoul, bite en bois, mais vous êtes là aussi, vous?
Ouais, il est là, Raoul. Et il a bien les boules.
Et pourquoi vous avez les boules?
Pourquoi? Eh, hey, dans quel monde tu vis? Tu sais que Raoul est un homme infâme, c'est pas un secret.
Oui, d'accord, et alors?
Ben, les femmes, aujourd'hui, c'est plus des femmes à Raoul. On n'a même plus la liberté d'importuner, comme dit la grande Catherine. Et ça, ça le rend dingue,
bon, Raoul. Écoutez, Raoul, calmez-vous, Didier, je vous en supplie. Bon, je vais voir ce que je peux faire, d'accord?
Bah, ce qu'on peut faire, c'est fumer des bons pétards. Ça calme tout le monde,
oh,
ça.
Oh, Aquarium, vous êtes là aussi. Bah, vous, au moins, vous n'êtes pas vénère. Hein.
Non, mais moi, du moment que j'ai mon Libanais torsadé et un peu de bonne musique, bah, tout va bien, hein. Aquarium! Aquarium!
Oh là là, je vous envoie des excellents, moi. Bon, attendez, c'est pas tout ça, mais l'émission continue. Hein. Je vais mettre un peu de bonne musique, il paraît que ça adoucit les mœurs. Tiens, un Johnny Cash. Un Johnny Cash, ça va faire plaisir à Chalumeau. Arrêtez, Didier, je vous en supplie.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Johnny Cash, The Man Comes Around dans Pop 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 sur France Inter pour le plus grand plaisir de Laurent Chalumeau qui était notre invité aujourd'hui. Et le, je ne sais pas si le silence qui suit du Johnny Cash, c'est encore du Johnny Cash, mais il va être rapidement comblé. Puisque
ce sera moins du Johnny Cash, je pense.
Nous avons les excellents parmi nous ce soir. Et messieurs, vous êtes d'accord pour faire une petite dernière pour la route?
Absolument, absolument.
Bah, écoutez, je vous laisse le micro, allez-y.
Est-ce que si on l'écoute à l'envers, on entend des messages sataniques?
Bien sûr. Bien sûr. On entend l'annonce du concert de...
Fantastique introduction à la musique de Led Zeppelin. Jimmy Page, je vous remercie. Et je le fais en son nom. Merci, merci à tous. Merci Laurent, je rappelle que Vénère, votre dernier roman, est disponible chez Grasset, que c'est le livre le plus indispensable de ce début d'année. J'ai même, je dirais même, de toute l'année. Non, je ne plaisante pas. Vénère chez Grasset, précipitez-vous là-dessus. Merci à Ramon Pipin et les excellents pour ce live dans le studio de Pop Pop Pop. J'en profite pour annoncer que vous serez en concert avec le groupe Odeur le 25 mai au conservatoire Jean-Baptiste Lully.
Antoine, je m'excuse, une toute petite vérification. Ce sont les élèves du conservatoire qui rendent hommage à ma carrière et donc qui vont interpréter 28 chansons et ce sera effectivement au conservatoire à Puteaux. Et donc je ne serai qu'une pièce rapportée. C'est vraiment un hommage qui m'est rendu, un hommage prétume.
Et un hommage, justifié et mérité. Demain,
merci beaucoup.
Demain dans Pop Pop Pop, lui, Baxter Dury, qui sera dans notre studio avec l'auteur de BD Jean Arambat. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Plutôt, comme dit Didier à la fin de ses tutos, self-défense sur YouTube.
Hey, Ducon, tu peux pas arrêter de casser les couilles aux auditeurs tous les soirs avec les podcasts de ton émission de merde?
Bon, pour ceux qui veulent, abonnez-vous à notre podcast. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique, Pierre-Yves Derolin, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy et Claire-Sophie Collet, nos attachés de production. À la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire.